France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Et l'invité de Musique Matin, ce matin, s'appelle Victor Julien Laferrière. Bonjour Victor.
Bonjour Jean-Baptiste.
En 2017, à Bruxelles, vous avez remporté le concours Reine-Elisabeth. C'était la première édition consacrée à votre instrument, car vous êtes violoncelliste, Victor Julien. Et puis l'année suivante, en 2018, vous remportiez le prix soliste instrumental de l'année aux Victoires de la musique classique. Vous venez ce matin au micro de France Musique pour, entre autres, deux choses, deux événements. Un disque de musique russe qui vient de paraître, Shostakovich, Denisov, Rachmaninov. Et puis un concert après-demain avec l'Orchestre National de France dirigé par Emmanuel Krivine, le concerto pour violoncelle de Dvorak. Je parlais de 2017, Bruxelles, 2018, les Victoires de la musique classique. C'était, si je ne m'abuse d'ailleurs, à Evian, dans cette belle salle de la Grange Lac de Sislav Rostropovitch, en tout cas construite pour lui. Deux ans après, ou avec deux ans de recul, vous avez le sentiment que tout ça a accéléré votre vie de musicien, ce qu'on appelle parfois une carrière ?
Oui, je pense que j'ai bénéficié de ce qu'on peut attendre de tels événements, de tels concours.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire beaucoup d'opportunités, beaucoup d'occasions de faire de la musique. c'est tout ce qu'on en attend. Après, c'est évidemment localisé dans le temps, et puis aussi d'ailleurs géographiquement, maintenant que j'y pense. Et donc, quand je dis ce qu'on peut en attendre de tels événements, ça veut aussi dire les limites sont là. Enfin, et heureusement, c'est pas une rente à vie.
C'est-à-dire les limites, c'est que je veux dire, des propositions de concert. De programmateur.
Voilà, c'est ça. Et c'est-à-dire qu'on me, et j'en suis ravi et je fais le concert. Ça ne veut absolument pas dire que je bénéficierai de cet effet très longtemps. Et c'est très bien comme ça. Les concours doivent rester ce qu'ils sont, c'est-à-dire juste un podium, une manière d'aider un jeune artiste. Mais ça ne présume en rien de son développement, etc.
Est-ce que c'est aussi un moment où il faut commencer à apprendre à dire non, parfois, à des propositions, Victor Julien Laferrière?
C'est vrai qu'il faut faire certains choix. En effet, oui, c'est vrai, mais c'est plutôt des choix très intéressants à faire parce que ça permet de se poser des questions intéressantes sur les partenaires de musique de chambre. Ça permet de se poser beaucoup de questions sur le type d'activité qu'on veut poursuivre. Pas simplement ce qu'on nous demande de faire, mais ce qu'on a envie de faire, etc. Donc ce sont des très bonnes questions à se poser.
Et bien, parmi vos choix, il y a eu le choix de ce nouveau disque, de ce nouveau label également, qui s'appelle Alpha. Vous avez gravé avec Jonas Vito au piano deux sommets du répertoire violoncelle piano, deux sommets russes. Il y a également la musique d'Edison Denisov, mais les deux sommets, c'est la sonate de Rachmaninov et celle de Shostakovich.
Thank you.
Deuxième mouvement de la sonate pour violoncelle et piano de Shostakovitch, c'est Victor Julien Laferrière, notre invité ce matin au violoncelle, et Jonas Vito au piano. C'est un disque paru cet automne, nouveau disque de musique russe, donc avec Rachmaninov et Denisov également. C'est vous qui avez fait ce choix d'âme russe qui parcourt ce nouveau disque?
C'est un choix d'abord qu'on a fait pour les programmes de concerts. Je pense que c'est une philosophie qu'on partage, philosophie autour de l'enregistrement qu'on partage avec Jonas Vito, de voir plutôt ça comme un prolongement des concerts. Donc c'est un répertoire qui nous a attiré beaucoup au concert depuis pas mal d'années ensemble. On a découvert la sonate de Shostakovitch ensemble. La première fois qu'on l'a joué tous les deux, c'était dans ce cadre-là. Et ensuite, quand on a abordé la sonate de Rachmaninov, assez rapidement, oui, en effet, on a pensé à l'enregistrer. Et donc, pour séparer ces deux grandes formes, ces deux grands chefs-d'œuvre, ces deux mastodontes, on a pas mal réfléchi à une œuvre qui casserait un petit peu l'impression qu'on peut avoir un peu, si vous voulez, deux paquebots qui se fracassent l'un contre l'autre. Et donc, on a écouté pas mal de choses et on a été très attirés par cette pièce de Denisov. C'est très étrange.
Sur un thème de Schubert.
Voilà, c'est rampant, mais on perd justement, là où on a exactement l'effet qu'on recherchait, c'est qu'on perd totalement la notion du temps. Il y a aussi, on sent qu'il c'est une confrontation entre Denisov et Schubert aussi, parce qu'il intègre même la notion du temps, presque une notion un peu schubertienne du temps aussi dans ses variations. Et on aime énormément ce langage et cette œuvre.
C'est Rachmaninov qui répondait, j'ai lu ça dans la pochette du disque, qui répondait à Nathan Milstein, le violoniste. Mais pourquoi devrais-je composer pour le violon alors que j'ai ici le violoncelle? Il y a vraiment quelque chose, notamment dans la musique de Rachmaninov, où il s'est penché et épanché sur votre instrument.
À mon avis, il a aussi dit ça pour ennuyer beaucoup ce violoniste peut-être, ou pour se désengager à Paris de boutade, parce que il a écrit cette sonate quand il était très jeune. Je crois qu'il avait même pas 20 ans, et il n'a pas non plus beaucoup écrit pour notre instrument par la suite. Je lui en fais ce reproche maintenant quelques.
Vous auriez voulu des grands concertos pour violoncelle comme il l'a fait pour le piano.
Bien sûr, on est devenu gourmand ensuite après le passage de Rostropovitch, évidemment. Mais en règle générale, sinon je suis ravi évidemment qu'il ait partagé cette opinion que beaucoup de violoncellistes ont évidemment du rôle du violoncelle, qui a des possibilités immenses, peut-être plus grandes que le violon, pour pas techniquement évidemment, pas dans la facilité, pas dans la virtuosité, mais il a des plus grandes possibilités d'ambitus, donc qui correspondent non pas, on dit souvent, à la voix humaine, mais à plusieurs voix humaines, à des voix de basse, de ténor, d'alto et même de soprano de manière courante.
Quand on joue Rachmaninov, Victor Julien Laferrière, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut, des épanchements ou des écueils à éviter? Est-ce qu'on évite de tomber dans du trop grand sentimentalisme? Je sais pas, votre professeur, par exemple, Heinrich Schiff, vous l'avez travaillé, cette sonate, avec lui?
Non, j'ai jamais travaillé avec lui. Pourtant, il a fait un très très bel enregistrement.
C'est pour ça que j'ai pas fait.
Non, je l'ai pas travaillé avec lui. Tout dépend du tempérament de chacun. On n'a pas du tout, je pense, pensé en ces termes-là. Et on essaye de trouver, évidemment, comme tout le monde, comme dans toutes les pièces, la juste expression, ce qui ne veut rien dire. Mais en tout cas, ça n'a pas été notre manière de réfléchir. C'était pas du tout d'essayer de ne pas trop s'épancher.
Là, on va écouter le mouvement lent, l'andante. Qu'est-ce que vous diriez sur ce mouvement-là qui est magnifique, déchirant, de Rachmaninov, du jeune Rachmaninov? Ouais.
Ce que je pourrais en dire, je sèche totalement. C'est... Comment dire, là pour le coup, c'est vrai, quand on en parle, on a envie d'éviter les caricatures, parce que là ce serait vraiment dommage de le caricaturer. Justement, c'est un moment qui prend tout son sens aussi au concert et dans le cours de la sonate, mais qui est absolument somptueux et avec un tempo souvent plus lent, le tempo de Rachmaninov, que celui qui est marqué, ce qui peut paraître un détail, mais ce qui en fait change pas mal le caractère.
Alors voici le juste tempo et voici
non,
peut-être,
pas du tout.
Voici ce peut-être que j'ai dit. Parmi ces deux sommets de la musique pour violoncelle et piano de musique russe, voici aussi le sommet de ces sommets, en tout cas pour moi, ce mouvement absolument sublime.
Mmh.
Et oui, jusqu'au bout, c'est un Dante mouvement lent de la sonate pour violoncelle et piano. Opus 19 de Rachmaninov, c'est sur le nouveau disque de Victor-Julien Laferrière, notre invité avec Jonas Vito au piano, disque qui paraît sous le label Alpha. On a cité Victor-Julien plusieurs fois déjà le nom de Rostropovitch. Quand on joue en concert, puis qu'on enregistre une œuvre comme celle-ci, est-ce qu'on range sous son lit tous les disques qu'on a écoutés depuis longtemps?
Alors, il se trouve que pour cette sonate de Rachmaninov, je la connais pas depuis si longtemps, curieusement. Je crois pas connaître l'enregistrement de Rostropovitch. Donc, j'ai pas eu tellement de problèmes.
La tentation, en effet,
pour... Non. Je sais pas pourquoi, ça faisait pas partie des disques que j'avais quand j'étais petit. Et celle de Shostakovitch non plus, me semble-t-il. Donc, en fait, voyez, c'est un écueil d'éviter pour ce disque déjà, a priori. Mais c'est vrai que peut-être j'en avais une certaine vision. J'étais pas forcément très attiré par cette sonate au début. Je l'ai connue, je sais pas pourquoi. Peut-être j'avais des a priori, comme on peut avoir des préjugés sur toutes sortes de choses dans la vie. Et puis j'ai, en fait, c'est mon professeur Clemens Hagen qui m'a fait changer, je crois, sans le savoir, d'avis sur cette sonate quand je l'ai entendu la jouer. Et depuis, je l'ai beaucoup joué en concert ces deux dernières années.
Comment on trouve un nouveau partenaire comme Jonas Vito? Vous connaissez depuis longtemps, mais vous avez enregistré pendant longtemps, vous étiez avec un autre pianiste, Adam Laloum, et puis là, c'est Jonas Vito. Comment ça s'est fait, cette rencontre? Comment on sait que ça marche?
Ben, je pense que ça fait partie de ces rencontres qu'on ne trouve pas, en fait. C'est-à-dire que avec Jonas Vito, la première fois qu'on a joué ensemble, c'était en 2007. Petit à petit, dans des groupes de musique de chambre variés. On a ensuite assez naturellement eu envie de faire de la sonate ensemble, mais depuis pas mal d'années déjà. Donc il y a pas. Je pense que pour les violoncellistes, c'est pas forcément très naturel d'avoir un seul partenaire de sonate, comme on a un quatuor à cordes par exemple, parce que c'est un peu comme le récital pour un pianiste, c'est un peu un espace de liberté pour nous, c'est là où on a le plus gros répertoire peut-être, les alliages de programmes possibles, les plus intéressants, etc. On peut pas vraiment comparer le récital piano seul avec le récital violoncelle seul, parce qu'on n'a pas tout à fait assez de répertoire. Donc c'est vraiment le récital violoncelle piano qui prend la même place. Et dans ce cas-là, le répertoire est tel, ça couvre tellement de siècles qu'on peut-être c'est dommage de penser que voilà, il faut créer une association comme un quatuor à cordes. Donc moi, je pense que c'est pas mal d'aborder certains répertoires avec certains pianistes, d'autres avec voilà. Et Jonas me fait autant d'infidélité que je lui en fais. C'est très partagé.
D'ailleurs, Victor-Julien Laferrière, ça vous arrive souvent de faire des récitals de violoncelle seul aujourd'hui? Ça fait peur parfois, peut-être plus d'ailleurs aux programmateurs de concerts qu'au public.
Ça fait peur aux programmateurs, ça fait peur aux violoncellistes souvent aussi. Je pense qu'on s'entend quasiment tous pour dire que c'est peut-être la forme de concert la plus difficile pour nous, plus exigeante, sans filet. On est assez dépendant de l'acoustique dans ces cas-là. Mais on a un magnifique répertoire qui est pas très bien réparti dans l'histoire de la musique, parce qu'on n'a pas de 19e siècle du tout, et on a assez peu de deuxième partie de 18e, ou pas du tout même. Donc, mais j'aime énormément faire ça, et en effet, depuis quelques années, j'en fais pas mal, en fait. J'en fais vraiment beaucoup.
Alors là, vous ne serez pas tout seul du tout. Après-demain, à l'auditorium de Radio France, vous serez avec l'Orchestre National de France, dirigé par Emmanuel Krivine. C'est la première fois que vous jouez avec cet orchestre et le maestro Krivine.
C'est la toute première fois, en effet. Je suis ravi que ce soit dans cette œuvre-là. Et il se trouve que j'ai admiré énormément le maestro Krivine depuis très très longtemps, et notamment depuis l'OFJ. L'Orchestre Français des Jeunes, au tournant des années 2000, où il les a dirigés pendant plusieurs saisons et où j'allais écouter les répétitions.
Concert en direct sur France Musique jeudi, ce sera le concerto pour violoncelle de Dvorak, on en parle dans un instant. Mais d'abord, vous voici on revient à Shostakovitch dans un concerto, le concerto de Shostakovitch.
Thank you.
petit extrait de cet Allegro du concerto pour violoncelle de Chostakovitch avec Victor, Julien Laferrière, l'Orchestre Philharmonique de Bruxelles dirigé par Stéphane Deneuve. Ça vous rappelle quelques souvenirs, ça, Victor?
C'est exactement ça. Le temps commence
Bruxelles,
à...
il y a 3 ans, le concours.
Oui, c'est ça.
Il y a un disque qui est sorti. Alors, Dvorak, c'est après-demain avec l'Orchestre National de France dirigé par Emmanuel Krivine. Là aussi, c'est une œuvre, on peut même peut-être dire que c'est le concerto pour violoncelle le plus joué dans les salles de concert. C'est une œuvre que, pour le coup, j'imagine, vous chérissez depuis fort longtemps.
Ça, c'est vrai. Pour le coup, je crois que mon père collectionnait les 33 tours de ce concerto. Il est déjà dans les années donc 90, il y en avait énormément d'enregistrements de ce concerto. C'est vrai qu'on a grandi avec ce concerto en tant que violoncelliste. C'est le concerto qui est utilisé, ou même n'importe quel violoncelliste vraiment ne peut pas y échapper parce qu'il est à toutes les auditions d'orchestre, etc. Mais c'est vraiment un sublime concerto. Je suis désolé de devoir le dire. Et que c'est vraiment très agréable de le jouer, le rejouer, parce qu'il est très riche. Il y a un grand matériel aussi, c'est-à-dire il y a beaucoup de manuscrits, il y a beaucoup de facsimilés. On peut se plonger, on peut le voir de plein de bouts différents.
Vous faites ça ?
Ah oui, bien sûr, et puis ça nourrit le travail quand on le joue. Souvent, les gens me posent cette question, quand vous jouez la pièce de nombreuses fois, est-ce que vous tombez pas dans une sorte de routine? Et ben ça, c'est une manière très naturelle justement d'éviter toutes sortes de routines.
Rendez-vous après-demain à 20h sur France Musique et à l'auditorium de la Maison de la Radio pour ce concerto pour violoncelle de Dvorak. Vous serez également à Cannes le 20 décembre avec l'Orchestre de Cannes. Cette fois, c'est le double concerto de Brahms avec Alexandra Soum au violon. Et puis, il y a l'Orchestre National d'Île-de-France. Vous êtes en résidence cette saison. Qu'est-ce que ça veut dire parfois? C'est mystérieux ce mot résidence. Je joue plusieurs fois avec eux. C'est un travail sur le long terme.
Oui, alors il y a cette série, en effet, où on jouera le concerto d'Elgar en mars ensemble, et puis il y a un projet qui me tient très 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 à cœur, c'est ce concours de composition qu'ils ont, l'île de la création, et j'ai fait partie du jury, je crois qu'on était 5 pour choisir les 3 finalistes, et je créerai les 3 concertos qu'ont dû proposer les candidats, et donc les 3 finalistes ont écrit 3 pièces que je créerai en avril avec l'Orchestre d'Île-de-France au cours d'un même concert. Donc ça, c'est un projet passionnant, j'ai jamais pris part à un projet de cette nature. Et pour moi, c'est vraiment une magnifique chance de voir un petit peu d'avoir une vision un peu générale de la création des gens de ma génération. C'est passionnant.
Les noms des compositeurs sont déjà connus?
Oui, s'il vous plaît, ne m'en demandez pas plus.
Mais ils seront sur francemusique.fr dans quelques minutes. Rendez-vous donc en avril avec l'Orchestre National d'Île-de-France, également le 10 mars dans le concerto d'Elgar. Rendez-vous après-demain. Ici à la Maison de la Radio dans Dvorak, et puis je signale aussi le concert avec Jonas Vito le 22 février au Théâtre des Champs-Élysées. Il y aura aussi Justin Taylor,
oui.
Apparemment, le
une
disque.
Une partie du concert avec Justin Taylor, l'autre avec Jonas Vito.
Le disque vient de paraître chez Alpha, Shostakovich et Rachmaninov et Denisov, mais moi je voulais qu'on se quitte avec un autre disque qui est sorti en tout début d'année, c'est Schubert, un très beau disque, double disque, chez Sony avec le trio Les Esprits.
Thank you.
un peu de Schubert pour terminer avec ce mouvement lent du trio Opus 99, un des très beaux disques pour moi de cette année paru chez Sony, double disque avec le trio Les Esprits qui a refermé son aventure, mais dont vous avez été le violoncelliste, Victor Julien de la Ferrière. Merci beaucoup d'être venu.
À réécouter sur francemusique.fr.